Je voudrais considérer quelques étapes de la vie de Caleb. D'abord, le livre des Nombres. Au chapitre 13, Nombre 13. Début du chapitre. Et après, le peuple partit de Hatséroth et il campa au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Au verset 7, Caleb est nommé pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Et puis, à la fin, au verset 17, fin du paragraphe, Moïse appela... Non, c'est un petit peu avant que Josué est nommé. Il n'est pas nommé dans la liste. Merci. Et Osée, oui, c'est ça. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Et donc, plus loin, verset 22, « Ils montèrent et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, quand on vint à Hamat, et ils montèrent par le midi, et ils vinrent jusqu'à Hébron. » Et là étaient Akiman, Shéchaï, Talmaï, enfant d'Anak. Et Hébron avait été bâti 7 ans avant de se rendre d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin et le portèrent à deux au moyen d'une perche et des grenades et des figues. On appela ce lieu-là torrent d'Escol à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Et ils allèrent et arrivèrent au pays de Moïse, auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des fils d'Israël, au désert de Paran, à Kadès, et leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. Et ils racontèrent à Moïse et dirent, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. » Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, le Hessien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. » Chapitre 14, verset 6, premier paragraphe présente tout l'effet qu'ont ces paroles sur tout le peuple, et la motation, le regret de l'Égypte. Verset 6, « Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. » Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres, et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. Juste encore un verset dans ce chapitre. Verset 22, « Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré et sa semence le possédera. » D'abord, pour ce passage, je ne voudrais pas m'arrêter sur le côté de ce qui concerne les 10 espions et la réaction du peuple. C'est un récit qui est bien triste et solennel, mais qui en même temps est là pour parler à nos cœurs. Dans ce qu'on a lu, on voit bien comment on a ce mélange. Verset 28, « Vraiment, le pays est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit, seulement. Et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. » Et puis après, plus loin, toute la description de tous les peuples qui sont là, qui sont des adversaires potentiels, qui occupent tout le terrain, au nord, au sud, la montagne, la plaine, le bord de mer, le bord de Jourdain. Autrement dit, il y en a partout. Oui, bien sûr, c'est un pays qui est habité. L'Éternel ne leur a pas promis un grand jardin vide à occuper. Il leur a promis un pays ruisselant et de miel, de lait et de miel. Et il avait annoncé à Abraham que ce serait ce pays. Il avait même dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Dieu était patient avec tous ses habitants de ce pays. Maintenant, le temps de cette patience était terminé. Et c'est quelque chose que Caleb a très bien compris. Quand il dit au verset 9, du chapitre 14, verset 9, « Ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus eux et l'Éternel est avec nous. » Caleb a bien saisi que, voilà, jusque-là, Dieu a... L'Éternel a laissé ses peuples habiter dans ce pays. Et ils avaient le témoignage qu'a tout homme, le témoignage de la création, avec un pays ruisselant de lait et de miel dont ils pouvaient profiter, qui devait leur parler d'un Dieu bon, qui permettait qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient toute abondance. Et qu'en avait-il fait? C'est Dieu qui juge. Mais là, leur protection s'est retirée. Caleb saisissait bien que si Dieu, maintenant, les avait fait sortir d'Égypte, leur présentait, leur donnait comme but ce pays, qu'il avait permis cette exploration pour voir à quoi ressemblait le pays, c'est bien en vue d'y aller. Dieu les conduit là, donc Dieu est avec eux, donc la protection qu'ils pouvaient avoir jusque-là s'est retirée d'eux. On peut dire, il y a là quelque chose... Je dis avec le sourire, on ne voit pas sur le masque. Il y a quelque chose de la logique de la foi. Si Dieu a dit ça, ben c'est logique qu'il y ait cette conséquence. Si Dieu a dit, je vous conduis hors d'Égypte vers ce pays ruisselant de lait et de miel, ben la logique de la foi reconnaît et reçoit que Dieu a préparé le chemin et que ces géants et que tous ces peuples-là, ben d'une manière et d'une autre, ils devront bien être vaincus. Je me souviens avoir lu dans un livre écrit par un chrétien qui faisait cette remarque quand il arrive quelque chose d'imprévu ou quand il y a un problème, on ne sait pas comment continuer. Quelle est notre réaction? Est-ce que notre réaction c'est « Ah, oh, il y a un problème, moi je ne sais plus ». Où il disait comme ça, et il le disait en reconnaissant pour lui-même qu'il ne le réalisait pas, au fond, notre réaction devrait être Maintenant, je suis curieux, comment est-ce que Dieu va résoudre ce problème? Notre inquiétude, c'est plutôt, mais il n'y a pas de solution. Je ne sais pas. On est perdu, on n'a plus de... Il n'y a plus de guide, il n'y a plus de lumière. Non, non, non. La foi, effectivement, je reconnais pour moi-même, je n'ai pas forcément très facilement cette réaction. Cette espèce de, ce qu'on peut appeler cette curiosité de la foi, maintenant, comment Dieu, qu'est-ce que Dieu a préparé pour résoudre ce problème-là? Bien sûr, il y a le côté solennel, le côté sérieux. Il parle à nos cœurs, il parle à nos consciences. C'est notre côté, quoi. Mais pour un Caleb, les choses sont simples, en un sens. Dieu a promis, donc il donnera ce qu'il faut pour y arriver. Et dans cette circonstance-là, la conséquence est quand même terrible. Il y a cette condamnation sur tous ceux qui ont murmuré. Excepté Caleb, mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Josué n'est pas nommé là, on le voit par ailleurs que Josué est associé à Caleb dans cette même grâce, dans cette même reconnaissance de sa foi. On voit bien verset 6 du chapitre 14, et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient entre d'entre eux. C'est ensemble, d'une même voix, d'une même foi, qu'ils ont réagi et qu'ils ont revendiqué à la fois la hardiesse de la foi et la gloire de Dieu. Alors, le deuxième passage, c'est l'autre bout du voyage. C'est dans le livre de Josué, au chapitre 14. On est dans le pays. Et la conquête s'est faite en grande partie. Tout n'est pas conquis, mais une grande partie est conquise. Et puis maintenant, c'est la répartition du pays avec cette charge. On reverra plus loin un autre passage où ça nous est redétaillé un peu. Chaque tribu doit venir prendre possession de ce qui va lui être attribué. Alors, le chapitre 14, on va lire... On va commencer au début du chapitre. C'est ici ce que les fils d'Israël ont reçu en héritage dans le pays de Canaan, ce qu'Éléazar, le sacrificateur, et Josué, fils de Nun, et les chefs des pères des tribus des fils d'Israël, leur distribuèrent en héritage. Leur héritage fut distribué par le sort, comme l'Éternel l'avait commandé par Moïse, aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage à 2 tribus et une demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait pas donné d'héritage parmi eux aux Lévites, car les fils de Joseph étaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, excepté les villes d'habitation et leurs banlieues, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les fils d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils partagèrent le pays. Et les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais la parole que l'Éternel a dite à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple, mais moi je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là, disant, si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage et à tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, comme il a dit, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, moi, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoyait. Telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant pour la guerre et pour sortir et pour entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Car tu as entendu en ce jour-là que les Anakim y sont, et de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel a dit. Et Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphunné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba. Arba était le grand homme parmi les Anakim. Et le pays se reposa de la guerre. Alors, avant de parler de Caleb lui-même, je voudrais juste relever quelque chose. Verset 8, quand Caleb rappelle ce qui s'est passé, il dit « Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. » Je relève juste ce petit mot « et mes frères ». Il n'y a chez Caleb aucune accusation vis-à-vis de ceux qui ont murmuré et qui, au fond, ont été à l'origine d'un jugement sévère sur tout le peuple, 40 ans dans le désert. Il les appelle ses frères. « Et mes frères ». C'est solennel. Il ne se désolidarise pas dans les liens qui le lient à ceux-mêmes qui ont été à l'origine d'un grand problème. Il les appelle ses frères. C'est quelque chose que nous devons toujours garder en mémoire. Nos frères, tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, quelle que soit leur marche personnelle, quelle que soit leur marche collective, ce sont nos frères. Bon, c'est une parenthèse, c'est pas le sujet, mais je vais le relever parce que quand on lit cela, c'est quand même frappant. Alors voilà, partage du pays, et Caleb est devant Josué pour recevoir son héritage. Et il rappelle ses circonstances. Et il rappelle ses circonstances comme si c'était hier. Alors qu'il précise bien lui-même, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, plus que la moitié de sa vie. 45 ans où il a marché avec le peuple au désert pour un péché qui ne le concernait pas. Pour une désobéissance, pour des murmures auxquels il n'avait pas participé, dont il s'était mis à l'écart. Dont il avait non seulement mis à l'écart dans une position, mais dont il avait parlé, dont il avait agi pour essayer de faire ce qu'il pouvait par son témoignage, témoignage de l'exploration du pays, mais surtout témoignage de sa foi, témoignage de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu pour son peuple, des soins, des projets qu'il avait, voulant des bonnes choses pour son peuple. Tout cela, qu'il mettait à part du reste du peuple, ben, 45 ans se sont passés. Il a partagé avec tout le peuple ce voyage au désert. Il a connu les mêmes circonstances que tous, avec une différence. Il savait ce que Dieu lui avait promis. Il savait que le pays devant lui, il y entrerait. Il le verrait, il y entrerait, il le posséderait. Pourtant, 45 ans, il y a le temps pour se laisser décourager. Il y a le temps pour s'endormir. Il y a le temps pour être simplement distrait par toutes sortes d'autres choses. On a souvent comparé la marche chrétienne à une course de fond. un marathon. Il y a de la distance à parcourir. Et bon, moi, je ne connais pas trop, je ne pratique pas ce genre de choses, mais j'entends autour de moi, c'est très à la mode dans le monde, ce genre de course. Si on démarre la course à toute vitesse, on n'arrivera même pas à la moitié. Et puis je vois les collègues qui en parlent, ils savent tous qu'à tel kilomètre, là, il y a un coup de barre. Et si là, on lâche, ben, on n'arrive pas au bout. Et c'est, je ne sais plus, 34e kilomètre, donc presque à l'arrivée, presque aux deux tiers, aux trois quarts de la course. Voilà, une course de fond. Les occasions ne manquent pas pour que, dans ces 45 ans, il puisse y avoir une lassitude ou quelque chose qui détourne. Et si on revient au livre des nombres, on voit comment ces 40 années de désert ont été jalonnées par des murmures et des occasions, des contestations, des occasions où Dieu a jugé. 45 ans, en fait, si on regarde l'exploration du pays, c'est au bout de la première année. Donc on a là, dans ces 45 ans mentionnés ici, on a 6 ans de conquête de la Palestine, du pays d'Israël, du pays de Canaan. Donc 40 ans, 39 ans, 40 ans en tout de désert, plus maintenant toutes ces années de conquête. Et qu'est-ce que dit ? Je suis Caleb, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Tel que ma force était alors, telle ma force est maintenant, pour la guerre, pour sortir et entrer. Cette foi, cette entière confiance en Dieu, l'a gardée sur le chemin, comme si le temps ne passait pas. Comme le jour où Moïse m'envoya, telle est ma force encore aujourd'hui. Et cette force est là, disponible pour la guerre, et puis pour sortir et entrer, c'est une fois que le pays est conquis, vivre. Il n'a pas devant lui juste de conquérir le pays, et puis après ça y est, c'est fait. Non, il conquiert le pays pour goûter à ce pays que l'Éternel lui a donné, lui a promis à Israël. Bien sûr, là, dans l'application, nous devons être prudents, il s'agit d'Israël. La bénédiction était terrestre, la bénédiction était matérielle, c'était jouir du pays, avoir sa vigne, son olivier, des récoltes abondantes. Voilà. Nous devons lire cela en considérant ce que sont nos bénédictions, qui ne sont pas des bénédictions matérielles. Alors, il y a des combats, mais il y a déjà ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ que nous avons déjà maintenant. Alors la conséquence de cela, c'est quoi ? Ben, Caleb demande tout simplement ce qu'il y a de plus difficile à prendre. Il veut comme part cette montagne. Tu as entendu en ce jour-là, verset 12 au milieu, que les Anakim y sont, et de grandes villes fortes. Les espions, les autres, parlaient de maisons, de murailles qui allaient jusqu'aux cieux. Ils présentaient ces Anakim. Nous avons même vu des géants. Voilà. Donc, ce qui est, au fond, le plus difficile, c'est ça que Caleb. Mais, verset 12, un peu plus loin, « Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel a dit. » La foi est consciente que nous tenons sous le regard de Dieu, dans la lumière de Dieu, c'est lui qui est souverain. Caleb compte pleinement sur Dieu. Sa foi n'a pas de doute, mais il compte sur Dieu dans la soumission. Il y a ce que Dieu a promis, il y a le plan de Dieu, comment il veut que cela se passe, il y a les ressources qu'il donnera pour que cela se déroule, et la foi saisit la promesse, et en même temps la foi se place dans la main de Dieu pour marcher comme lui l'entend. On a un bel exemple de cela, une petite parenthèse, dans ces deux batailles de David contre les Philistins, la vallée des Réphaïm. Une première fois, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il interroge l'Éternel, vas-y. Et puis les Philistins, il a la victoire. Et puis les Philistins reviennent, des circonstances qui ressemblent à la première fois, par le même endroit, dans des circonstances très ressemblantes. David aurait pu dire, bah, ça y est, ils reviennent par là, ça n'a pas suffi une fois, allez, on y va, ce sera comme l'autre fois, on les aura. Non, David interroge l'Éternel, et l'Éternel lui dit, attends. Et il envoie des anges devant David, et David récolte le résultat de la victoire que Dieu lui-même a remportée contre les Philistins. Deux circonstances similaires, deux manières de combattre différentes, dans la dépendance. Alors voilà, Caleb voudrait cette ville, Hébron, et verset 13, Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphuné. Verset 14, c'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. On reviendra à ce verset 14, et là je voudrais lire au début du livre des Juges, premier chapitre des Juges, le passage équivalent à peu de choses près la même chose, on le retrouve aussi dans le livre, de Josué, un peu plus loin que là où on était. Au verset 8, il est dit que les fils de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem et l'avaient prise, et l'avaient frappée. Un peu plus loin, au verset 12, verset 10 d'abord, Juda s'en alla contre le Cananéen qui habitait à Hébron. Or, le nom de Hébron était auparavant Kiriat Arba. Et ils frappèrent Shéchaï, Akimam et Talmaï. Et de là, il s'en alla contre les habitants de Débir. Or, le nom de Débir était auparavant Kiriat Sefer. Et Caleb dit, « À qui frappera Kiriat Sefer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Et Othniel, fils de Kenaz, frère puiné de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle lui dit, « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Juda, Caleb était un prince de Juda, va conquérir son territoire. Et plus particulièrement, il ne nous est pas donné là de détails sur la manière dont Hébron a été conquis. Par contre, il nous est simplement précisé, ils frappèrent Shéchaï, Akiman et Talmaï, les trois fils d'Anak que les espions avaient nommés comme étant des personnes redoutables, de ces géants redoutables qui empêchaient qu'on puisse prendre le pays. Mais il nous est simplement dit là, ils frappèrent. Dieu a donné la victoire sur ces géants réputés imprenables. Et puis alors, on a ce récit, ce petit récit concernant Kiriat Sefer. Caleb incite les autres, ils encouragent. Et reprenons un petit peu la situation. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans étaient morts au désert. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans au moment où les espions étaient allés visiter le pays sont morts au désert. On est 40 ans plus tard, 45 ans d'après ce qu'on a vu, on vient de lire. Quoi. Donc, il n'y avait personne qui avait plus que 65 ans, sauf Caleb, 85 ans. Et tous ceux qui étaient vivants, les enfants qui étaient vivants au moment où les espions étaient allés au pays, ben c'était la tranche d'âge qui, là, avait entre 40 et 60 ans. Et puis après, il y avait tous ceux qui étaient nés au désert. et qui avait grandi, qui n'avait pas connu l'Égypte, et qui était là maintenant, les forces vives de cette armée, tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus. Alors Caleb, j'utilise un mot, je l'aime pas trop, mais j'en ai pas d'autre qui me vient à l'esprit, il pose là comme un challenge. Allez, là il y a cette ville à prendre. Est-ce que vous avez la foi pour aller combattre? Qui a la foi pour aller combattre et prendre cette ville? Mener le combat contre cette ville? Et qui est-ce qui répond? Othniel, fils de Kenaz, frère puîné de Caleb. Donc un neveu de Caleb. Et il prend la ville. Il a la foi, il va. Il prend la ville. Et Caleb lui donne sa fille, Aksa, pour femme. Et puis les versets suivants nous montrent quelque chose qui sort du cercle d'Israël et qui se retrouve au niveau d'un cercle d'une famille. Là, d'un couple qui démarre une vie. Il arriva que comme elle entrait, sous-entendu chez Othniel, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle encourage son mari, celui qui est son mari maintenant, à demander à Caleb une portion d'héritage. Et Caleb lui donne. Et puis, ça ne suffit pas. Elle vient chez son père. Donne-moi une bénédiction. Tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donne les sources du haut et les sources du bas. On reviendra sur les sources après. De quoi ça nous parle là? On a là deux personnes, et particulièrement Aksa, qui apparaît là comme le moteur, pour qui l'héritage est important. J'aime bien, c'est que de l'imagination, mais j'aime bien m'imaginer les 40 ans dans le désert, dans la famille de Caleb. Papa, raconte-nous comment c'était dans le pays. Et Caleb qui peut raconter. Raconter ce qu'il a vu, raconter ce que sa foi a saisi. Une Aksa qui a reçu ces choses-là. Elle veut un champ. Elle exhorte son mari à demander un champ pour eux, un bout de l'héritage, cette bénédiction promise de Dieu. Et elle a bien conscience qu'une terre, pour qu'elle produise, il faut de l'eau. Elle demande à son père, elle, des sources d'eau. Voilà un prix attaché à ce que Dieu a promis. Une foi qui s'est transmise d'une génération à une autre. Une foi d'un Caleb qui a pu, comme dit, j'imagine les choses, parler de ce qu'il avait vu dans le pays, décrire ce qu'il avait vu, que Dieu avait promis, et qui a pu faire passer ce message de la foi en Dieu qui promet et qui donne, qui tient ses promesses. Les sources d'eau, les sources du haut, les sources du bas. Les sources du haut, c'est celles qui vont donner de l'eau qui coule facilement. Il suffit de... Pour irriguer, c'est pas compliqué, il suffit de faire des canaux et on peut amener l'eau où on veut, elle coule toute seule. Mais les sources du haut, ce sont celles qui dessèchent en premier, qui se tarissent quand la saison devient difficile. Les sources du bas, elles coulent tout le temps. Par contre, l'eau qu'elles produisent, il faut le porter, le remonter pour pouvoir irriguer. On peut voir plusieurs illustrations dans ces deux sources. Une première illustration que je voudrais y voir, c'est que Dieu a toujours une ressource. Que ce soit au printemps, quand les sources regorgent, ça coule facilement, l'eau est abondante. Il y a des temps où l'eau est abondante, où Il y a de la nourriture pour les âmes. Ou lire la parole est facile. Ou se nourrir ne demande que de s'y mettre sans plus. La parole est là. On a des aides pour la lire. On a du temps peut-être. Des âges de la vie, on a plus de temps. On a plus d'énergie. L'esprit plus vif. Et puis, il y a ce moment où il y a les sources du bas. Dieu est fidèle et il donne toujours. Mais par contre, il faut le chercher et il faut. C'est plus laborieux pour que cette eau serve là où elle doit servir, arroser pour que ça pousse. On peut y voir des temps plus difficiles, aussi bien des temps de la vie que des temps extérieurs. Nous avons bien des frères et sœurs dans bien des pays qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la liberté de marcher par la foi, de vivre leur foi, qui doivent cacher leur foi. Mais les sources du bas sont toujours là. Un dernier point que je voudrais relever, c'est qu'en revenant dans le livre de Josué, je ne sais pas si je vais trouver tout de suite. Si. Au chapitre 20, il nous est dit que l'Éternel parla à Josué, disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, « Établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui par mégarde aura frappé à mort, quelqu'un sans le savoir s'y enfuit. Elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang. » Verset 7. Et ils sanctifièrent Kedesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, et Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Ailleurs, il nous est précisé que Hébron, Kiriath Arba, Hébron, a été donné comme ville lévitique, ville de refuge, ville lévitique. Caleb a demandé Hébron pour la prendre comme héritage. Et une fois la ville prise, je dis « il » avec des guillemets, il l'a donnée comme ville lévitique et comme ville de refuge. Ça aussi, c'est la foi. La foi qui combat pour s'approprier quelque chose et qui après le donne plus loin. Alors, il ne nous est pas dit que Caleb l'a donné. Il nous est dit que ces villes ont été choisies. Il ne nous est pas précisé comment elles ont été choisies en tant que villes de refuge. Il y a bien sûr un aspect simplement géographique, c'est que les 6 villes de refuge, 3 de chaque côté du Jourdain, sont placées à des distances telles que de tout Israël, de tout endroit du pays, celui l'homicide par mégarde, celui qui avait tué par mégarde, pouvait facilement atteindre cette ville. Donc c'est déjà simplement cette raison-là. Mais pourquoi Hébron et pas la ville juste à côté, ça ne nous est pas précisé. Mais voilà, cette ville que Caleb a reçue, il l'a laissée, il l'a donnée. Cela aussi, c'est cette marche de la foi. Alors que le Seigneur nous encourage par cet exemple de Caleb, qui a tenu ferme pendant toute cette traversée du désert, jusqu'au bout, qui a pris au mot les promesses de Dieu. Et puis, par cet exemple qu'on a à travers Othniel et Aksa, a transmis quelque chose de cette foi, et de cette foi qui saisit les promesses de Dieu. Nous avons des promesses, pour maintenant, toutes sortes de promesses pour maintenant. Je pense par exemple à Philippiens 4, apportez toutes choses à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il y a toutes ces promesses du Seigneur par rapport à sa présence avec les siens, ses ressources pour la marche, sa parole. Et puis on a ces promesses qu'on a évoquées à la fin du culte, son retour, quand il viendra chercher les siens, l'entourer, le voir, être avec lui. Que qui nous encourage pour tenir ferme à ces choses par la foi et regarder à lui toujours, quelles que soient les circonstances qu'on croit qu'on rencontre dans le chemin.
Simplement rappeler un verset en parlant de Caleb et de Josué. Le peuple n'a pas pleinement suivi l'Éternel, mais en Nombre 32, verset 12, excepté Caleb et Josué qui ont pleinement suivi l'Éternel. Donc Dieu reconnaît que Caleb et Josué qui sont entrés dans le pays ont pleinement suivi l'Éternel pendant le temps de ces 40 années dans le désert. Mais ils sont entrés dans le pays et Dieu est et leur est reconnaissant. Il cite ce verset qui est cité, je crois, 5 fois dans la parole de Dieu, que Caleb et Josué ont pleinement suivi l'Éternel. Nous aussi, nous avons à suivre le Seigneur pleinement, comme le Seigneur pouvait dire à Pierre, « Suis-moi » 2 fois, en Jean 21, 20 et en verset 22, « Toi, suis-moi ».
Soixante-cinq.